les traces de ce que l'on a été dans l'enfance, de la manière dont on a été socialisé, perdurent même quand les conditions dans lesquelles on vit à l'âge adulte ont changé, même quand on a désiré s'éloigner de ce passé, et, par conséquent, le retour dans le milieu d'où on vient, et dont on est sorti, dans tous les sens du terme, est toujours un retour sur soi, et un retour à soi, des retrouvailles avec un soi-même autant conservé que nié. Affleure alors à la conscience, en de telles circonstances, ce dont on aurait aimé se croire libéré, mais dont on n'ignore pas que cela structure notre personnalité, à savoir le malaise produit par l'appartenance à deux mondes différents, séparés l'un de l'autre par tant de distances qu'ils paraissent inconciliables, mais qui coexistent néanmoins dans tout ce que l'on est. Chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite la bienvenue et vous propose de tendre l'oreille pour écouter Transfuge. Est-ce que vous vous souvenez des petites fiches que vous deviez remplir pour chaque professeur de chaque discipline, chaque année, où il fallait parler de vous, de vos passions, du métier que vous vouliez faire, mais surtout, surtout, du métier de vos parents? Encore aujourd'hui, dans les études supérieures, c'est une question presque indispensable lorsqu'on rencontre de nouvelles personnes. À l'ENS, il s'agit presque toujours des mêmes réponses. Parents profs, parents chercheurs, parents journalistes, parents ingénieurs, parents médecins. Autrement dit, parents cadres, si on se fie à la catégorie socio-professionnelle de l'INSEE. Et si vos parents ne font pas partie de la longue liste de métiers de cadres et professions intellectuelles supérieures, on vous regarde avec curiosité, étonnement et, dans le pire des cas, un peu de mépris. La sociologie vous appelle les transfuges de classe. Vous quittez un milieu pour en trouver un autre, nouveau, aux codes sociaux différents, inédits. L'ENS est-elle pour vous synonyme de doute et de peur, ou de découverte et de refuge? Comment se sentent les enfants d'ouvriers, d'employés, d'agriculteurs ou encore de commerçants? Qui sont-ils? Qui sont les transfuges? Aujourd'hui, c'est Annelise qui va répondre à mes questions. Bonjour Annelise.
Bonjour Marie.
Est-ce que tu peux te présenter en nous donnant ton statut au sein de l'ENS, donc si tu es élève, étudiante, etc., ton niveau, donc L3, L1, etc., et ta discipline, s'il te plaît?
Alors, je suis en quatrième année à l'ENS. En réalité, c'est une année 3 bis, puisque je prépare l'agrégation de lettres classiques pour la deuxième année consécutive. Je suis... C'était quoi l'autre question?
Est-ce que tu es étudiante, élève?
Ah oui, voilà, je suis étudiante.
Et pour essayer de comprendre qui tu es socialement, j'ai quelques questions qui ont l'air anodines, mais que j'aime bien poser. Où est-ce que tu as grandi?
J'ai grandi dans la Drôme provençale. Alors, le petit village dans lequel j'ai grandi s'appelle Le Peg. C'est une commune de 300 habitants, dans une région magnifique, que je vous invite à découvrir si vous la connaissez pas. C'est juste à côté de Nyons.
Est-ce que tu es déjà allée à l'étranger, et si oui, combien de fois?
Oui, de nombreuses fois quand même. Mais alors, jamais en Angleterre. Mais sinon, je pense que j'ai visité tous les pays voisins de la France, en particulier l'Italie. J'aime beaucoup Rome, où j'ai été plusieurs fois. Et puis j'ai quelques origines suisses, donc j'ai déjà été en Suisse. Et les autres fois, c'était pour des camps d'été, des camps itinérants. Donc c'est ce qui m'a permis de découvrir les autres pays, Espagne, Portugal, voilà, et puis Allemagne.
Est-ce que tu as déjà fait du ski?
Oui, j'ai eu la chance de découvrir le ski il y a 2 ans, je crois, 3 ans. Mais effectivement, je n'ai pas beaucoup pratiqué le ski.
Et t'avais quel âge quand t'es allée au musée pour la première fois?
Je sais pas du tout. Je pense assez jeune quand même. Ne serait-ce que on a un musée dans mon village, un musée archéologique. J'ai dû y aller quand même au primaire, j'imagine.
Est-ce que tu as déjà sauté une classe? Et si oui, combien?
Non, j'ai jamais sauté de classe.
Et c'était quoi ton livre préféré quand tu étais enfant?
J'ai beaucoup aimé Les bibliothèques roses et vertes. Donc, je sais que quand j'étais petite, j'aimais beaucoup Fantomette. Je sais pas si c'était mon livre préféré, mais vraiment, ça m'a beaucoup fait rêver.
Bon, et maintenant que les questions faciles sont passées, autant continuer avec la question qui fâche. Qu'est-ce qu'ils font comme métier, tes parents?
Alors, mes parents travaillent ensemble et ils sont agriculteurs-éleveurs. Mon père est plus... Enfin, se charge davantage du côté agricole et ma mère... du lien avec les clients, mais en réalité elle aide quand même beaucoup mon père, surtout depuis que ben, les grands sont partis de la maison.
Oui, du coup, j'imagine que ça correspond à la catégorie ressources professionnelles agriculteur. Voilà. c'est pas très compliqué. et maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, je voulais tout simplement te demander comment est-ce que tu vas là maintenant à l'ENS ?
Actuellement, je me sens bien à l'ENS, à peu près, autant que la préparation du concours peut le permettre. Mais je sais qu'au tout début, c'était pas facile, voilà. Mais là, je me sens bien, oui.
Et t'en as un peu parlé, mais est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu faisais avant d'arriver à l'ENS ? Donc si t'as fait une prépa, ou une fac, en l'occurrence une prépa, où t'étais, quelle discipline, donc quel spé t'as pu faire, et d'une part, à quel point l'ENS c'était ton but absolu, ou pas ? Et d'autre part, à quel point est-ce que tu pensais que tu serais prise sur une échelle de 1 à 10 ?
Oui, alors, avant d'arriver à l'ENS, du coup j'ai fait un lycée public, dans la Drôme, auquel... Je rends tout ce qu'il m'a apporté, enfin, qui m'a vraiment bien formée. J'ai fait un bac S, spé physique, ce que j'ai regretté amèrement. J'aurais vraiment aimé faire spé SVT, mais bon. J'espère que ma prof m'en veut pas trop, donc c'est le montant un jour. et après, en fait, j'ai mis qu'une seule prépa dans mes vœux. C'était pas du tout mon but ultime. Enfin, je visais pas l'ENS du tout à ce moment-là, au niveau du bac. J'ai mis une prépa parce que mon prof de philo m'a dit « Anise, les lettres peuvent vraiment vous plaire. Renseignez-vous sur les prépas, vraiment, vous y plairiez. » Et vraiment, ça pourra vous enrichir. Donc je me suis renseignée, je me suis dit « C'est vrai, il n'y a pas que le côté flippant de travail acharné dans la prépa. Ça a l'air assez enrichissant. Penchons-nous sur la question. » Du coup, j'ai quand même j'ai fait un petit tri dans les prépas. En fait, je voulais surtout pas une prépa qui me réduise en poussière. Et j'ai choisi du coup une petite prépa lyonnaise que je connaissais un petit peu de réputation, Sainte-Marie-Lyon, donc prépa privée, qui en fait, j'ai découvert en arrivant, avait un bon classement vis-à-vis des autres prépas. Donc voilà, donc je suis arrivée en prépa en connaissant à peine l'ENS. Et au fur et à mesure, j'ai compris quel était le concours que je préparais. en CAGN, j'ai choisi la spécialité lettres classiques. Il y avait 4 spécialités seulement dans ma prépa. J'avais un petit peu hésité entre les autres. Mais en fait, j'ai choisi ça parce que j'aime beaucoup les langues depuis toujours. Et donc, de toute façon, il n'y a pas de langue vivante comme spécialité dans ma prépa. Et je me suis dit que les lettres classiques, c'était... le socle de toutes les langues que je pouvais apprendre, en tout cas les langues parlées en Europe. Voilà. Et il y avait un petit peu le côté scientifique, avec la grammaire par exemple, assez rigoureux dans la traduction que j'appréciais bien. Voilà, donc j'ai choisi lettres classiques. Après, est-ce que je visais vraiment l'ENS ? Oui, parce qu'il fallait prendre un minimum au sérieux le travail que je faisais si je voulais le faire. je suis pas un bourreau de travail. Enfin, j'aime bien faire les choses, mais donc j'essayais d'y croire. Après, si vraiment je me sentais admissible, vu mes résultats pendant l'année, j'étais pas du tout sereine et certaine de réussir. J'étais plutôt dans les derniers en CAGN. Et en fait, j'ai décollé à la fin de l'année, notamment en lettres. On avait un prof qui misait beaucoup sur la méthode. Et moi, c'était justement ce qui pêchait. Et donc, en m'accrochant, j'ai progressé. Mais je jouais le tout pour le tout. Je pense que s'il avait fallu que j'estime mon degré de certitude, ça aurait été peut-être 3 ou 4 sur 10. Parce que je sais qu'un concours donne ses chances à chacun. Mais qu'en même temps, moi, j'étais pas brillantissime, quoi.
L'ENS, c'est considéré comme une réussite sociale et intellectuelle pour beaucoup. Mais comme toute victoire ou tout succès, il y a souvent beaucoup d'échecs de tout type avant. C'est quoi l'échec, qu'il soit scolaire ou pas du tout, qui t'a le plus marqué et qui t'a le plus permis d'avancer et ou de rebondir ?
Petit échec, je dirais, au niveau du bac scientifique, parce que je me suis rétamée en maths et un petit peu en physique. Mais je me suis quand même bien sortie. Enfin, j'ai quand même eu la mention bien. Mais c'est vrai qu'en arrivant en prépa, la plupart avaient la mention très bien. Donc voilà, j'ai un peu serré les dents, mais dans le fond, j'étais pas du tout peu mortifiée. Surtout que je m'étais bien rattrapée par ailleurs dans d'autres disciplines pour le bac.
Gros échec l'an dernier, parce que j'ai pas eu la grègue. Donc j'avais été admissible quand même. Et je suis allée aux oraux. Et j'aime bien prendre les choses à bras le corps. Donc je suis allée à la proclamation des résultats et aux confessions après les oraux. Et donc en fait on énumère ceux qui ont été admis en commençant par le premier. Donc jusqu'au bout on y croit. Et donc c'était... En fait c'est à ce moment-là que j'ai pas été appelée. Et je me suis rendu compte à quel point j'y avais cru et je m'étais investie. Parce que j'ai vraiment fondu en larmes. Enfin, j'ai appelé les 3-4 personnes qui m'étaient le plus cher juste après. Pendant que les autres faisaient pareil, mais pour fêter leur réussite. Et moi, j'ai senti que j'avais le cœur gros, quoi. Et puis, en fait, j'ai choisi... Puis du coup, ça a mis par terre mon projet de césure. Donc, je me suis assez vite décidée quand même à repréparer la grègue. En quelques jours, enfin en moins d'une semaine, en 3 jours. Parce qu'il fallait que je donne une réponse. En fait, j'avais déjà candidaté pour partir l'année suivante et je devais donner une réponse définitive dans la semaine. Et en fait, je me suis dit, bon, plus vite c'est réglé, plus je serai tranquille et je serai en vacances quand même. Donc, j'ai décidé très vite de reprendre la grègue. Et en fait, l'été qui a suivi, j'ai connu ma première rupture amoureuse. Et qui s'est un peu étalée. Et ça a été très difficile à vivre pour le début de l'année suivante. Parce que je recommençais la grègue et j'avais plus les soutiens. En fait, j'ai beaucoup d'amis qui sont partis de Lyon cette année. Donc j'avais l'impression d'être très seule et en même temps d'être clouée à Lyon parce que j'avais choisi de repasser l'agrégation. J'ai dû puiser dans mes ressources, m'appuyer sur les personnes qui m'étaient chères, mais par téléphone. Et en fait, croire que je pouvais retisser des liens avec ceux qui étaient sur place, que j'appréciais, mais qui ne m'étaient pas spécialement proches. Et m'appuyer sur ce qui était là, sous la main. Quoi. J'ai la chance d'avoir une amie qui est venue s'installer vraiment dans l'appart à côté, voisin, pour préparer la grègue à l'ENS. Et donc ça, c'était un soutien de malade. Voilà. Du coup, c'était une année de gros défis, cette année.
Quand t'es arrivée à l'ENS, qu'est-ce qui t'a fait le plus ressentir que tu venais d'un milieu social différent? Est-ce que t'as des anecdotes ou même juste un peu un truc d'ambiance? Est-ce que tu pourrais raconter un peu?
Alors, je dirais que ça a commencé même avant l'ENS, en prépa. Parce que... Ma vie se résumait en prépa à... Non, se résumait pas au travail intellectuel, mais c'était quand même une part importante, voire majoritaire de mon temps, comme tous les préparationnaires. À l'ENS, ça s'est légèrement atténué, parce qu'on est à l'ENS, donc c'est bon, on l'a eu, le concours. Ou pas, mais on y est, quoi. Et je pense qu'il y a une dialectique très forte qui s'est créée pour moi en commençant les études, entre travail manuel et travail intellectuel. Parce que j'avais connu ce que c'était que le travail manuel avec la ferme de mes parents. J'aimais ça. Enfin, j'aime l'activité physique de manière générale, mais en particulier quand elle a un sens, qu'elle porte du fruit, comme dans une ferme, par exemple. Et en fait, de mesurer que le travail intellectuel peut permettre de gagner sa vie et que ça demande autant d'efforts qu'un travail physique, finalement. Ça, c'était un apprentissage, enfin un apprivoisement. En fait, surtout vis-à-vis de mes parents, de montrer, d'assumer mes études. En fait, c'était presque plus vis-à-vis de mes parents que vis-à-vis des étudiants, que c'était pas facile. Parce que mes parents, ils font quelque chose de tellement différent de ce que moi j'étudie, que assumer, supporter leur regard, leurs questions et expliquer... réexpliquer sans cesse, notamment à l'ENS. Alors là, je suis en telle année pour faire telle chose, il me reste encore tant d'années. Donc moi, c'était le défi, c'était d'être fière de mon travail intellectuel, d'aller à fond, de faire à fond ce travail. Voilà. Donc je dirais que la question de la différence sociale, tout ça, c'est plus vis-à-vis de mes parents qu'elle était difficile à vivre. Parce que je me rendais compte que le milieu dans lequel j'évoluais et avec lequel je me plaisais assez bien finalement, n'était pas du tout le même que celui dont, duquel je venais.
Mais ça m'interroge parce que c'est une question que je pose quand même à chaque fois. T'as déjà vu de moments d'interaction avec des étudiants et étudiantes de l'ENS où t'as eu des remarques ou des... Enfin, parce que là, tu racontes beaucoup par rapport à tes parents et c'est hyper intéressant, on y reviendra après. Mais ouais, t'as jamais eu de choses avec des étudiantes de l'ENS?
Si, effectivement, l'an dernier, en première année d'agrég, nous étions 7 en lettres classiques à préparer l'agrégation. Et un jour, il y en a un qui, je ne sais plus, a fait une remarque sur l'origine socio-professionnelle des uns ou des autres, en faisant comme si on était tous... Je pense qu'il a dit, de toute façon, on est tous fils de prof. Et en fait, moi, j'ai bondi, j'ai dit, mais non, moi, je ne suis pas fils de prof, fille de prof. Enfin, on n'a pas le même milieu d'origine. Et puis, en fait, j'ai expliqué que mes parents étaient agriculteurs. Et puis, il y en a une qui a répondu en disant, ben moi, moi aussi, ma mère est apicultrice. Et j'ai senti qu'il était vraiment impressionné, un peu choqué, bousculé en tout cas dans sa certitude d'être dans un cocon confortable d'entre-soi et de se rendre compte qu'en fait, ah non, ah oui d'accord, il y en a qui n'ont pas du tout le même parcours que moi. Moi ça m'a beaucoup fait rire de déstabiliser un peu. Mais c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de remarques ou de questions sur mes parents. Peut-être parce que justement tout le monde imagine que qu'on est tous ici du même milieu en fait et du coup la question se pose pas.
Pour toi le syndrome de l'imposteur qu'est-ce que c'est et est-ce que ça te parle?
Ça me parle depuis la prépa, je dirais un peu en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Le syndrome de l'imposteur c'est celui de, enfin c'est le sentiment de pas être légitime à la place où on est. Je pense que c'est lié à une grande exigence, soit qu'on se donne, soit qu'on subit, enfin qu'on reçoit. Donc effectivement la prépa, je l'ai pris de plein fouet le syndrome de l'imposteur parce que la barre est mise très très haute et voilà il faut vraiment cravacher pour y arriver et y a énormément de remises en question et enfin je me souviens que quasiment enfin au moins une fois par trimestre pendant prépa je me posais la question de partir. Donc et c'est marrant parce qu'a posteriori ça s'efface un peu, ça s'atténue, parce que ben on a réussi, on a passé le cap. Mais sur le tas, je me souviens que mes parents devaient souvent m'encourager et me dire « Non mais si, vas-y, tiens bon. » Parce que vraiment, je disais « Mais je vais pas y arriver, c'est pas ma place. » Et en arrivant à l'ENS, je pense que je le ressentais moins. Parce que justement, en fait, j'avais le mérite des 2 années de prépa. Et je me disais « Ben, tout ce que j'ai donné, tous les efforts fournis, ben, ils trouvent quand même leur récompense en arrivant à l'école. Donc j'ai beaucoup moins été torturée par ce sentiment d'imposture. En fait, je le ressens encore parfois en me confrontant aux autres parce que à l'ENS, il y a des génies et que surtout quand ils sont dans la même spécialité que nous, c'est assez impressionnant et ça donne le vertige. Enfin, on se dit, oula, mais... On a l'impression que soi-même, on n'est pas à la hauteur. Mais je dirais que du coup, la diversité à l'ENS aide un peu à atténuer ce... Enfin, à relativiser, en fait, ce sentiment.
Et je voulais revenir, donc tu as beaucoup parlé de ta famille. Tu disais que voilà, ça pouvait être compliqué parce qu'il fallait supporter leurs regards, leurs questions. Est-ce que tu as l'impression que depuis que tu es entrée à l'ENS, Enfin, par rapport à la prépa, ton rapport a changé avec ta famille? Est-ce que c'est la même chose qu'en prépa? Qu'est-ce qui a pu évoluer? Parce que tu disais que, par exemple, c'était compliqué d'expliquer voilà, la différence entre le diplôme, le master. Enfin, ça, c'est des notions qui sont très propres à l'ENS. Et quand on est extérieur, ça peut être un peu bizarre. Enfin, mais comment ta relation avec tes parents ou ta famille, de manière générale, a évolué?
J'ai l'impression qu'en prépa, j'étais très soutenue par mes parents. Parce que ben ils voyaient que c'était difficile et donc au fur et à mesure des années j'ai pris mon indépendance on va dire affective voilà. En fait j'ai l'impression que maintenant mes études sont plus de ma responsabilité dans le sens où avec l'agrégation j'aurai un métier en fait si j'aurai un poste d'enseignant. À la fois une satisfaction de dire, ben voilà, j'ai enfin quelque chose de concret, de stable pour l'avenir. Et du coup, c'est plus facile à expliquer. Et puis, en fait, j'ai toujours su que j'avais ma place dans la ferme pour travailler. Mais mes parents nous ont poussé à... mes frères et sœurs et moi, à faire des études pour avoir, en fait, pour nous ouvrir à ce qui peut se faire d'autre, pour avoir une compétence bien à nous, pour explorer et cultiver aussi nos compétences, voilà. Donc on a chacun fait des choses, chacune de mes sœurs et moi a fait quelque chose de différent. Mais du coup, c'est pour ça que se poser la question de enfin, la confrontation aussi avec la ferme, bah, du coup, bah, maintenant que j'ai un diplôme d'enseignant, bah, je peux effectivement travailler de mon côté. Parce que, en fait, une ferme, ça se transmet. Enfin, c'est une vie entière qui est donnée pour développer un lieu, en fait. C'est très concret. Et du coup, ça appelle naturellement un héritier, enfin, un repreneur. Donc, mais je suis très contente que mes parents, enfin, je suis très reconnaissante que mes parents. Nous ait poussé à faire autre chose, nous a donné cette liberté en fait d'être vraiment nous-mêmes et de faire des études, voilà. Et donc ce qui est bien, c'est que maintenant je sais que je peux très bien exercer mon métier d'enseignant et puis mes parents m'y poussent et voilà, y aller là où ça me mène. Et puis si un jour je veux revenir à la ferme, je sais que ce sera bienvenu.
Enfin, est-ce que tu pourrais parler d'un modèle, d'une personne qui était là pour toi ou qui t'inspire et qui te donne envie de continuer à croire en tes objectifs et peut-être d'être toi-même un modèle pour d'autres un jour ?
Ce seraient mes parents ou des professeurs de prépa pour le côté travail intellectuel. Effectivement, j'ai la foi et c'est quelque chose qui me soutient énormément. En fait, qui m'aide à croire en moi aussi. Enfin, c'est pas quelque chose qui me tire en dehors de moi-même, mais qui m'aide à creuser qui je suis. La foi, je la vis comme un don, la personne que je suis, en fait. Et en lien avec Dieu, mais... Enfin, la foi, c'est une relation entre Dieu et l'homme. Et donc... on croit que c'est un lien d'amour. Donc, en fait, c'est d'abord soi-même qu'il faut apprendre à aimer. Et du coup, c'est comme ça que la foi m'aide à progresser, voilà. Je dirais que mes parents eux par leur modèle, enfin en tout cas leur vie me stimulent parce que ils sont pas du tout conformistes et que ils assument leur choix à deux, mais enfin je sais qu'ils ont besoin l'un de l'autre, mais ils... donc c'est aussi c'est non seulement un modèle de persévérance, mais aussi de couple qui me porte.
Et bah, merci beaucoup, Annelise, pour avoir répondu à mes questions. Vous venez d'écouter Transfuge, une émission produite par Marie Brunner et diffusée sur Transistor.